Beaumarchais, un aventurier de la liberté. Par Éric Orsenna. Aujourd'hui, un ami de la finance.
L'intimité d'un quatuor de princesse royale, rien de plus prestigieux et protecteur à l'occasion, mais ça ne nourrit pas. Lucidement, Beaumarchais considéra son âge, déjà 26 ans, et l'état de ses finances. Son mariage ne s'était pas montré aussi profitable qu'espéré. Son emploi d'officier de bouche lui rapportait des clopinettes. Le commerce des montres, même hors de prix, avait atteint ses limites. L'entièreté de sa famille vivait désormais à ses crochets, et la diminution de son niveau de vie n'était pas une hypothèse envisageable. Conclusion, il lui fallait de l'argent. Où le trouver? La réponse était simple, chez les riches. Une nouvelle campagne commence, dans laquelle la séduction va devoir aborder d'autres territoires. Après les femmes plutôt jeunettes, faisons-nous aimer des hommes d'un âge qui leur permet d'avoir accumulé assez. En un mot, à nous les vieux. Le premier de la liste est Charles-Guillaume Borromée, le Normand, plus glorieux cocu de France puisque marié à Madame de Pompadour. Quand on a pour rival le roi lui-même, seuls les imbéciles se laissent envahir par l'aigreur de la jalousie. Les autres profitent de l'aubaine et monnaient au mieux leur complaisance. C'est ainsi que Charles avait pu acquérir, dans l'est de Paris, le château d'Étiole où il donnait de joyeuses fêtes. Facile pour Beaumarchais de s'y faire inviter, encore plus facile d'en devenir le bout en train et la coqueluche. Nous le savions musicien, voici qu'il se découvre un autre talent qui plus tard deviendra génie, écrire des pièces. Charles et ses amis raffolent de parades, de brèves farces et frontaises vives, très imitées de la Commedia dell'arte. Elle se joue en famille et l'on peut s'y laisser aller à l'ironie, à la satire, à la gaudriole. Délicieuses occasions de se moquer du maître de maison tout en le célébrant. Beaumarchais s'en donne à cœur joie et paie de sa personne. Il joue tous les rôles, auteur, acteur, compositeur de la musique, Jean-Bête à la foire, Colin et Colette, député de la Halle et du Gros Caillou, Zizabelle médecin. Au titre des œuvres, on devine qu'elles ne sont pas inoubliables. Mais l'horloger se fait la main, rôde ses mécaniques, peaufine des personnages et s'exerce à les faire parler juste. Merci à son enfance dans le quartier Saint-Denis. On ne trouve pas toujours ce qu'on cherche, l'essentiel est de chercher, trouver viendra, sans qu'on puisse deviner la nature de la trouvaille. Goûtons ces surprises, elles sont le sel de la vie. En science, on appelle sérendipité ce genre de fécondes erreurs de parcours. En se rapprochant de l'époux Pompadour, Beaumarchais croyait monter dans le carrosse qui conduit à la richesse. C'est à la gloire théâtrale qu'il se préparait. Le barbier et le mariage sont des enfants du château d'Étiole. Sans cesser de goûter les rires, les applaudissements et les étreintes qui s'ensuivent, il s'agissait de passer sans tarder aux choses sérieuses. Je veux dire trouver un vrai financier, pour qui les seules parades seraient celles qui comptent. En d'autres termes, plus vulgaires mais pertinents, les seules parades qui rapportent. Les fées n'avaient pas oublié notre ami. Après lui avoir fait l'inestimable cadeau de quatre sœurs, voici qu'elles allaient lui offrir un quatuor de frères, les Paris, tous millionnaires. L'origine de cette fortune ne sentait pas la rose puisque naît de trafic dans les fournitures aux armées. Mais l'argent n'a pas d'odeur, comme on sait, et l'odorat du jeune Beaumarchais ne devait pas être des plus sensibles. Le plus riche de la famille s'appelait Joseph. Pour qu'on le distingue des autres Paris, il y avait collé Duvernay. Son surnom expliquait ses trafics. Tout le monde l'appelait le général des farines. Il venait de fêter ses 75 ans et se battait pour faire aboutir le plus vaste de ses projets et potentiellement le plus rémunérateur, bâtir une école royale militaire. Une belle et noble idée venue justement de la Pompadour, accueillir les enfants des gentilshommes tombés sur le champ d'honneur et leur donner gratuitement la plus solide des éducations et la plus utile au pays. Le chantier gigantesque avait commencé en 1751 sur un dessin de Gabriel, le meilleur architecte du temps. On lui devra plus tard deux des plus belles places du monde, celle de la Concorde à Paris et celle de la Bourse à Bordeaux. Pour trouver les premiers fonds, on avait fait feu de tout bois, lancé un emprunt, taxé les cartes à jouer, lancé une loterie. Ce genre de tirage existait depuis la nuit des temps, mais le séducteur vénitien Giacomo Casanova, de passage à Paris, en propose une nouvelle version qui bientôt fait fureur. On l'appelle roue de la fortune. Mais rien n'y fait, cette affaire se révèle un gouffre, il faut toujours plus d'argent. Paris du Vernet n'en peut plus, ses forces l'abandonnent. C'est alors que surgit ce Pierre-Augustin de 27 ans. Nous sommes en 1759. Dès leurs premiers échanges, Joseph succombe. Derrière le charme du jeune homme, il repère tout de suite les qualités essentielles au banquier, la créativité de l'intelligence, fondée sur l'amour du concret, et la passion des solutions, une très agréable absence de scrupules, et plus que le talent des contacts, cette capacité rare à aimer sincèrement les personnes qui pourraient vous être utiles. Paris du Vernet se revoit 40 ans plus tôt, il sait qu'il a trouvé le complice, l'autre lui-même, en un mot le fils, celui qu'il n'attendait plus. L'ancien va tout confier au débutant, son savoir, ses techniques, ses secrets, son réseau, son crédit illimité lorsque Pierre-Augustin aura besoin de fonds pour ses propres investissements. Quant à cette sorte de flair qui permet de savoir à la seconde quel projet refuser et sur quel autre s'embarquer et avec qui pour partenaire, cette lecture instinctive de l'époque, cette petite voix qui vous dicte à quel moment acheter, à quel autre vendre, ce sixième sens qu'on appelle communément le sens des affaires, pas besoin de l'enseigner. Il paraît bien que notre Pierre-Augustin l'ait porté en lui dès sa naissance, peut-être même avant. Toujours est-il qu'après avoir élégamment bricolé dans l'horlogerie et la musique, le voici accueilli par la plus large porte au royaume de la finance. Il ne le quittera plus, demeurant tout au long de son existence informé de tout, voulant participer à tout, essayant de tirer parti de tout et le maximum. Bref, Beaumarchais, un prince des opportunités. Le comte, pourquoi faut-il qu'il y ait toujours du louche en ce que tu fais ?
Figaro,
c'est qu'on en voit partout quand on cherche des torts.
Le comte, une réputation détestable.
Figaro, et si je vaux mieux qu'elle ? Y a-t-il beaucoup de seigneurs qui puissent en dire autant ?
Le comte, 100 fois je t'ai vu marcher à la fortune et jamais râler droit.
Figaro, comment voulez-vous ? La foule est là. Chacun veut courir, on se presse, on pousse, on coudoie, on renverse. Arrive qui peut, le reste est écrasé.
Mariage de Figaro, acte 3, scène 5.
Né au cœur de Paris, citadin jusqu'au plus profond de lui-même, Beaumarchais aime d'amour sa ville. Comment améliorer la vie qu'on y mène avec cette population de plus en plus nombreuse qui s'y entasse dans un capharnaüm puant et engorgé. Pas plus sale que ces rues encombrées d'ordures, et pas plus mal commode que ces étages, quand il faut tout y monter, tout à commencer par l'eau. Même si l'hygiène n'est pas la préoccupation majeure du siècle, il faut bien tout de même, parfois, se laver un peu. Pauvre porteur d'eau, quel épuisant métier. Jacques Constantin Perrier est l'un de ces ingénieurs entrepreneurs qui ont bâti l'industrie française. De 8 ans plus jeune que Beaumarchais, il a déjà rempli sa vie lorsqu'ils se rencontrent. Curieux de toutes les inventions techniques, avec son frère Auguste Charles, il cherche à en faire profiter le plus grand nombre. C'est ainsi qu'ils ne vont pas tarder à introduire en France la machine à vapeur d'un certain Écossais James Watt. Plus tard, ils développeront dans les mines un système permettant d'extraire plus facilement la houille. Pour l'heure, ils veulent doter Paris d'un système de pompes et de canalisations qui permettrait de distribuer l'eau partout et sans effort. Nous créons une société des eaux. Voulez-vous en être ? Beaumarchais n'hésite pas. De cette nouvelle compagnie des eaux, ancêtre dès 1781 de Suez et de Veolia, il devient non seulement le principal actionnaire, mais le plus actif des ambassadeurs. Ce sera l'une de ses plus profitables opérations. Tout le monde a besoin d'eau, donc tout le monde veut s'abonner. Les installateurs de tuyaux et de pompes courent de maisons en maison. La valeur des titres de la compagnie s'envole. On crie à la spéculation. Les ministres s'en mêlent. Beaumarchais répond. Rien ne le distrait plus que ce genre de bataille. Donc il y excelle, il plaide, il ferraille, il retrouve sa jeunesse. Et comme lors de sa campagne d'Amérique, il ne s'agit pas seulement d'argent. Une conviction l'anime, il faut au plus vite moderniser Paris. L'eau, d'ailleurs, l'a toujours passionné. C'est l'un des héritages de son père, qui gardait dans ses cartons un projet de machine à remonter les bateaux. La fabrication de montres n'avait jamais épuisé la curiosité des Caron. Chez eux, rue Saint-Denis, entre deux petits concerts familiaux, on discutait aussi de science hydraulique. L'horlogerie, la musique et l'eau. Mais comment ne pas trouver des ressemblances entre ces trois flux qui coulent, trois courants passent, celui du temps, celui des mélodies et celui de cette eau qui est la source de toute vie. On pourrait ajouter le commerce, ressort de tout échange et dynamique de l'économie. Fluide est la vie, comme la liberté. Fluide, un adjectif qui pourrait servir de devise à l'existence. Vous avez beau avoir déjà beaucoup fait, il vous reste toujours des regrets. Il paraît que, dans ces dernières années, Beaumarchais parlait souvent d'un pont d'une seule arche qu'il aurait voulu construire pour enjamber la Seine, et aussi d'un canal traversant le Nicaragua. Savez-vous, répétait-il, savez-vous qu'au milieu du Nicaragua se trouve un lac, et je le cite, « La nation qui serait maîtresse de ce lac et des canaux qui joindraient les deux mers serait infailliblement la maîtresse du commerce mondial. »
Sei così grosso e grasso, io non t'aveva certo conosciuto.
Per miseria così son divenuto.
Ma cosa fai in si via? Quando da me sortisti t'avea raccomandato a ciò fossi provvisto d'un impiego.
E lo te d'eccellenza e ver lo niego.
Chiamami sul lindoro, oh. Non vedi a questo mio travestimento che incognito esser voglio.
Ubbidirò,
c'è sotto qualche imbroglio. Ebbene, quest'impiego.
Io fui fatto garzon di spezieria.
Dei ospedali, forse dell'armata.
D'un mariscalco di cavalleria.
Buon principio.
Il posto era assai buono, ma essendo sfortunato da quel posto, signor, fui discacciato.
Ma perché? Dimmi un po'.
L'invidia c'è, l'invidia giusti dei. La cagione di tutti i mali miei fu la cagione di tutti i mali miei.
Eccole, tu mi seggi, io poc'anzi osservai che componevi e cantavi con molta buona grazia.
E questo fu, signora, la mia disgrazia. Quando il ministro seppe che facea sonetti, madrigali, epitalami, idilli, ode e canzoni, ed altre sorte di composizioni, egli tragicamente, sorteria, dall'impiego mi fece mandar via.
E tu allora?
Ed io allora, per non saper che fare, mi misi per le Spagne a viaggiare.
Comme nous savons, l'écriture de théâtre ou de mémoire n'occupait qu'une infime partie des jours de Beaumarchais. En même temps qu'il défendait son Figaro, il bataillait pour une autre œuvre. Revenons quelques années plus tôt. Le 30 mai 1778, Voltaire meurt face au Louvre, sur ce quai qui porte désormais son nom. Pleurent en Europe tous les amis de la liberté. Et chacun de découvrir qu'il n'existe aucune édition complète de cet écrivain aussi considérable que prolifique. Le siècle des Lumières ne peut continuer sans lui. Beaumarchais vient de laisser à d'autres le soutien de l'Amérique. Il a besoin d'une cause nouvelle. Pour lui, Voltaire représente bien plus qu'un philosophe. c'est un général, le panache blanc auquel on se rallie dans les guerres. D'abord, il a défendu la mémoire du commerçant protestant Jean Calas, injustement condamné à mort. Beaumarchais n'oublie pas son père, lui aussi commerçant, lui aussi protestant, avant d'abjurer. Voltaire a osé défier les pouvoirs politiques et religieux. Il a ouvert les portes des prisons que nous avons dans la tête. Chaque fois qu'il le fallait, il a pris ses risques. Il a sorti son arme, la pointe de sa plume, plus acérée que l'épée, plus mortelle que le mousquet, le verbe, les trois mots qui tuent. On n'imagine pas aujourd'hui la place d'un tel homme sur tout le continent. De la liberté en marche, Voltaire fut l'un des inventeurs, peut-être le premier. Pour Voltaire, Beaumarchais est l'incarnation même de la génération nouvelle, celle qui va prendre son relais et continuer de briser les fers. Contrairement aux paresseux de vivre, il salue son énergie. Détestant les frontières géographiques ou mentales, il admire la diversité de ses actions. Au théâtre, son barbier l'a fort réjoui. Bref, le grand homme a toujours couvert son cadet d'éloges. Homme libre, bravant les flottes anglaises comme il avait bravé en d'autres temps les rigueurs ministérielles. Beaumarchais se sent donc le plus légitime pour mener l'opération. Éditer Voltaire ressemble à délivrer l'Amérique. Il faut commencer par créer une société, sans tarder, c'est chose faite. Il la qualifie de société philosophique, littéraire et typographique. Première étape, rassembler l'œuvre. Mais qui la détient? Un Lillois, dénommé Charles-Joseph Pannekoek, qui se dit libraire de son état, c'est-à-dire éditeur. Faute d'avoir convaincu Diderot de lui confier son encyclopédie, il s'est consolé en achetant tous les manuscrits de Voltaire. Et pour en établir la bonne version, pour choisir entre les variantes, en un mot pour les préparer avant l'impression, il a fait appel à Condorcet. Condorcet, rien de moins. Pannekoek n'est pas un homme à lésiner sur la qualité, mais l'ampleur de l'opération l'effraie, l'intérêt de Beaumarchais tombe à pic, on se rencontre, on négocie, et voilà, l'entièreté de Voltaire se retrouve propriété de notre ami. Il restera à rassembler les lettres, près de 5000, mais chaque chose en son temps. Deuxième étape, offrir une belle édition. Justement, un Anglais nommé Baskerville vient de dessiner des caractères d'une grande élégance. La société typographique va lui en acheter des caisses. Une fois la Manche traversée, malgré la guerre avec l'Angleterre, il faudra compléter ces petites merveilles de plomb, car la langue française a des accents que sa voisine anglaise ne connaît pas. Mieux vaut ne pas trop prêter attention au budget prévu, d'autant qu'aucune économie n'est envisageable sur le papier, rien moins que du Wollaston, une autre merveille anglaise où l'on peut lire en filigrane le nom du grand auteur Voltaire. Troisième étape, choisir une imprimerie. C'est alors que les ennuis vont se multiplier. Il ne faut pas songer à la France puisque l'index y frappe encore Voltaire. Méfions-nous des autorités, des chaleurs peuvent soudain leur venir et toute votre production se voir détruite. L'endroit parfait est trouvé à Kehl, en Allemagne. Il suffit de traverser le Rhin pour rejoindre Strasbourg. Un fort de Vauban, pour l'heure désaffecté, propose de vastes espaces. Des machines y sont installées, des ouvriers embauchés. La production commence à peine que le papier vient à manquer. Wollaston présente ses excuses, un incendie a ravagé ses entrepôts. Beaumarchais reprend la route et trouve son bonheur dans les Vosges. L'activité reprend dans la forteresse allemande. On n'y fêtera que début 1783, la sortie du premier tome. 68 sont à suivre. De l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire en France, les innombrables ennemis de Voltaire se déchaînent. Au premier rang desquels l'Église, qui menace d'excommunication tous ceux qui se risqueront à lire ses ordures. Mais aussi certains parlements, les fermiers généraux, la justice est saisie, un arrêt ordonne de détruire les 30 premiers volumes parus. Beaumarchais n'y prête pas attention et poursuit son œuvre. Et Louis XVI finira par s'habituer. Et Condorcet conclura l'ensemble par une biographie du maître Voltaire, juste à temps, mi-avril 1789. Les troubles des temps suivants, n'ayant été favorables ni au commerce ni à la lecture, l'entreprise débouchera sur une insondable faillite. Mais comme le note Christian Vasselin, le symbole vengera la finance. Je le cite, « Lors du transfert des cendres de Voltaire au Panthéon, le 11 juillet 1791, une collection intégrale de l'édition de Kehl accompagnera le pompeux cortège au son de la marche lugubre de Gossec. » Trois ans plus tard, le 29 mars 1794, l'autre pilier de ce monument éditorial, Nicolas de Condorcet, mourait dans sa prison de Bourg-de-l'Égalité, aujourd'hui Bourg-la-Reine. Par le sort de la naissance, l'un est roi, l'autre est berger. Le hasard fit leur distance. L'esprit seul peut tout changer. De 20 rois que l'on encense, le trépas brise l'autel. Et Voltaire est immortel. Et Voltaire est immortel. Dernier vers du mariage de Figaro. On connaît la plus belle des définitions de l'argent. L'argent, c'est le pire des maîtres et c'est le meilleur des serviteurs. Alors, que représentait l'argent pour Beaumarchais? À l'évidence, un maître exigeant, de ceux qui ne laissent jamais de répit, qui vous appellent à toute heure, qui réclament de vous une disponibilité permanente et sans vergogne pompent votre énergie. L'un de ces maîtres aussi qui, ne se préoccupant pas de scrupules, ne veut pas entendre les vôtres. Un maître qui vous entraîne sur des chemins et dans des pays que l'éthique réprouve. Beaumarchais affairiste, c'est-à-dire, selon le dictionnaire, je cite, « un homme ou une femme avant tout préoccupé de profit ». Fin de citation. Tout est dans l'avant tout. Il n'est pas sûr que ces deux mots aient un sens pour Beaumarchais. Un homme trop amoureux de la vie, pour s'embarrasser de préférences amoureuses ou autres, ne raisonne pas en termes d'avant tout. Sa devise, c'est « aussi » ou « également » ou « en même temps ». Mortifère est le maître qui vous prive de votre vie en ayant pris totale possession de vous. Beaumarchais ne court pas ce genre de risque. Personne, ni amour, ni activité, ne sera jamais de taille pour s'emparer de l'entièreté d'une telle vitalité. La recherche permanente de l'argent dévore Beaumarchais. Mais les Beaumarchais sont innombrables en Beaumarchais. Aucun appétit, même celui de l'argent, n'a la bouche assez vaste pour les avaler tous les Beaumarchais. Les perpétuels embarras que rencontre ou s'invente l'homme d'affaires, la foule d'importuns qui ne cesse de le déranger, n'empêcheront jamais notre héros de mener le reste de sa vie, le reste de ses vies. Vous avez compris que Beaumarchais est doublement chat, par sa capacité de rebond et par le nombre de ses existences. Et c'est ainsi que l'argent est pour lui le plus irremplaçable des serviteurs. Car son argent n'est pas celui paresseux de l'héritage ou de la rente. Il n'est venu dans sa poche qu'après de longues et quotidiennes batailles. Cet argent lui offre le confort qu'il souhaite et la liberté sans laquelle il est tout frais. Mais surtout, sa conquête, la conquête de l'argent, lui a permis de pénétrer le cœur de la comédie humaine. L'argent et le pouvoir sont deux enjeux pour lesquels s'exacerbent les passions, là où se révèlent, par la caricature, les personnalités. Ceux qui le traitent d'affairiste ont le droit de condamner certaines de ses opérations qu'on peut qualifier de limites. Mais derrière cette insulte, ne voyez-vous pas l'obligation faite à l'écrivain de se concentrer sur sa seule mission qui est d'écrire? Certaines activités lui sont autorisées, enseignant, ou médecin, ou journaliste, mais pour les autres, on fronce les sourcils avant de se boucher le nez. Au mieux, on accuse l'auteur de se disperser. Que n'est-il ermite et pauvre, seulement occupé de son œuvre? Vite, on le traite de vendu. Avec le diable, dit-on, il faut n'accepter de dîner qu'avec une longue cuillère. Mais si justement, pour connaître de plus près le diable, il fallait raccourcir la cuillère. De l'or, mon Dieu, de l'or, c'est le nerf de l'intrigue. Le mariage de Figaro, acte 1, scène 6. Quand on aime l'argent, on s'intéresse à sa source. Beaumarchais se passionne pour ses réflexions nouvelles sur la création de la richesse et le développement de l'entreprise. Alors que le siècle 18e du nom entre dans son dernier quart, les lumières éclairent comme jamais. Aucun domaine n'échappe au besoin général de connaissances. La conviction la plus généralement partagée est que du savoir, toujours plus de savoir, viendra le progrès. Un grand mot écrit en majuscule, comme la confiance en un avenir forcément meilleur. Après 2 millénaires d'engourdissement, l'ambition de comprendre l'emporte sur la foi du charbonnier. Galilée, puis Newton, avaient enfin raconté l'histoire vraie du ciel. Il était temps de se préoccuper de la Terre. Se multipliaient les réflexions sur l'organisation de la société. De Locke, 1632-1704 à Montesquieu, 1689-1755, des juristes avaient osé remettre en cause le vieil et pesant et poussiéreux régime monarchique. Et si l'on inventait maintenant d'autres manières de gouverner? Allions-nous attendre encore longtemps avant d'imposer, avec Rousseau, de nouveaux contrats sociaux? À cette émancipation ne pouvait échapper l'économie. Plus généralement, il fallait s'intéresser à la production de la richesse. Dans sa jeunesse, Beaumarchais n'avait eu pour horizon que sa boutique de montres. Les vastes affaires développées aux côtés de Paris du Vernet élargissent ses perspectives. Il constate éberlué les bouleversements de l'agriculture. Il se tient informé des progrès du machinisme qui va lancer l'industrie. Il se passionne surtout pour le commerce. Le commerce est pour lui profondément moral. L'échange est l'autre ressort de la vie, le complément indispensable de la liberté. Tous les obstacles qui s'opposent à la fluidité sont causes de thromboses personnelles ou sociales. L'économie a mauvaise presse aujourd'hui, on le sait. D'abord, ses experts ne cessent de se tromper dans leurs prévisions. Plus profondément, l'économie s'est fourvoyée. En voulant à tout prix devenir science dure, elle a chassé les disciplines considérées comme molles, c'est-à-dire l'histoire, la géographie, la sociologie, la psychologie, pour se laisser envahir par de pauvres mathématiques, des modèles bricolés, destinés moins à expliquer qu'à nous enfumer. Vous avez compris que je parle de la finance. On se demande quand Beaumarchais trouvait du temps pour lire. Mais sa correspondance foisonne de références aux maîtres de cette école qui fut appelée celle des physiocrates. Permettez un conseil, ouvrez un jour le tableau économique de François Quesnay. Ce personnage est typique du XVIIIe siècle, travailleur forcené et praticien de cette discipline qu'on appelle la culture générale. Il est en effet philosophe, médecin, chirurgien et collaborateur de l'encyclopédie. Il présente une économie globale, animée certes par des lois, mais qui n'oublie jamais la dimension humaine. De toutes ses forces, Beaumarchais soutiendra le ministre Turgot, qui voulait en finir avec les famines endémiques qui ravageaient régulièrement le royaume. Il voulait ouvrir le commerce du blé à travers les régions. Les spéculateurs s'y opposèrent, parmi lesquels de nombreux princes du sang. Turgot fut renvoyé le 16 mai 1776. Le prix du pain atteignit des sommets. S'en suivit une fureur populaire qui fut l'une des sources de la Révolution. Économie. Ce mot vient de oikos, maison, et de nomos, loi. Ne signifie originairement que le sage et légitime gouvernement de la maison pour le bien commun de toute la famille. Le sens de ce terme a été dans la suite étendu au gouvernement de la grande famille qui est l'État. Jean-Jacques Rousseau, article économie dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert.
C'était Beaumarchais, un aventurier de la liberté, par Éric Orsena. À la technique, Alain Joubert. Réalisation, Rafik Zénine.